Voilà, nous poursuivons notre série, commencée en septembre sur cette lettre aux Philippiens. Et nous arrivons gentiment à la fin du chapitre 1 et on va commencer aussi le chapitre 2 aujourd'hui sur 4 chapitres que contiennent cette lettre. Et le titre de ce message, c'est « Vivons en citoyens du royaume de Christ ». Ça va être un message un petit peu en deux volets. Vous comprendrez par la suite, mais peut-être que si il y a une vérité, quelque chose que vous pouvez retenir de tout ce que vous allez entendre ce matin, c'est ce qu'il y a écrit ci-dessous, motivé par l'exemple de Christ, luttons ensemble pour l'Évangile. Motivé par l'exemple de Christ, luttons ensemble pour l'Évangile. Je vous invite à lire Philippiens chapitre 1, le verset 27 au chapitre 2, verset 11. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous, celui que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagé dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'était jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Précédemment, Paul a cherché à rassurer ses lecteurs en leur disant « Je suis en prison, rappelez-vous, mais ne vous faites pas de soucis, l'Évangile continue de progresser, il progresse en prison. J'ai eu l'occasion de parler de ma foi à ceux qui me gardent. Et l'Évangile progresse à l'extérieur. Ça donne du courage aux chrétiens de l'Église de Rome qui, à leur tour, annoncent l'Évangile. Cette partie de la lettre que nous abordons maintenant est marquée par l'encouragement. Paul veut encourager les Philippiens à vivre en citoyens du royaume de Christ, à travers de toute une série d'impératifs, d'exhortations. Menez une vie digne de l'Évangile, chapitre 1, verset 27. Ayez un même amour, chapitre 2, verset 2. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, toujours au verset 2 du chapitre 2. Mais Paul ne donne jamais ses impératifs sans donner les ressources pour les vivre. Il invite ses destinataires à regarder à Christ, l'exemple à suivre. Et pour valoriser cela, il a construit cette partie de sa lettre dans un schéma particulier. Terme technique, ça s'appelle un chiasme. En fait, ses exhortations à vivre en citoyen du royaume sont parallèles. Dans 1.27 à 2.4, donc cette exhortation, vivez en citoyen du royaume, qu'on va retrouver, on ne l'a pas lu ce matin, mais ce sera la suite, la prochaine fois, vivez en citoyen du royaume de Dieu dans les versets 12 à 18 du chapitre 2. Et au centre, il y a ce qui est important. Il y a la source, il y a le modèle, il y a l'exemple à imiter, celui de Christ. Il y a quelques années, le cycliste Lance Armstrong, 7 fois vainqueur du Tour de France, s'est vu retirer ses 7 titres pour cause avérée de dopage. Suite à cela, malheureusement, l'image du cyclisme a été ternie à cause de cette affaire. Paul rappelle aux Philippiens que même s'ils vivent à Philippe, qui est une colonie romaine, ils sont avant tout citoyens du royaume de Dieu. Ils doivent donc mener une vie digne de l'Évangile, c'est-à-dire vivre d'une manière à répandre l'Évangile. Par leurs paroles et par leurs actes, ils sont appelés à refléter leur roi, à refléter Christ, à refléter leur nouvelle vie avec Dieu. Jésus les a sauvés, les a attirés dans son royaume, et cela devrait se voir dans leur vie. Alors nous habitons aujourd'hui à Cré, à Grane, à Alex, à Oust et un peu partout autour de Cré, et nous sommes aussi concernés par ces exhortations à vivre en cohérence avec le message de l'Évangile, avec notre vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors ce n'est pas toujours facile. Et en ce sens, nous avons également besoin de puiser notre motivation dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce sera le premier point de ce message. On saute donc tout de suite au chapitre 2, versets 5 à 11. Ce passage central est un hymne somptueux à propos de Christ. Et il y aurait tant de choses à dire et à apprendre concernant la divinité de Christ, son incarnation, le fait qu'il est devenu homme. Mais ce que Paul veut surtout faire, c'est attirer notre attention sur la trajectoire qu'a suivie Jésus. Elle suit une courbe descendante, puis ascendante. Pour la partie descendante, qui va jusqu'à la croix, c'est à la fois l'abaissement et la souffrance de Christ qui sont mises en lumière. La partie ascendante, elle, révèle l'élévation, la glorification du Seigneur Jésus par son Père. L'abaissement. Alors que Christ est Dieu depuis toujours, qu'il partageait la gloire de Dieu, qu'il partageait la gloire avec Dieu son Père, il choisit volontairement de se dépouiller, littéralement de se vider de cette gloire céleste, de quitter la place la plus élevée au ciel, sa position d'égal avec Dieu, pour se faire homme. Et tout en étant toujours Dieu, Jésus vient comme un serviteur ou comme un esclave, et occupe en cela la place la plus humble qui soit. Christ a renoncé à ses droits pour venir nous servir. Quelle humilité de la part de Christ. Mais en venant sur terre, Jésus n'avait qu'une pensée, qu'un objectif. La croix qui se trouve au bas de cette partie descendante. Son sacrifice sur la croix marque le fond de cet abaissement où Jésus va y être humilié, méprisé, traité comme un criminel et y subir d'atroces souffrances. Mais Jésus n'a pas considéré ses propres intérêts, mais au contraire, il a fait cela par amour pour nous. Il savait que c'était le seul moyen de nous sauver. Après son abaissement volontaire, son humiliation, après toutes les souffrances liées à sa vie sur cette terre jusqu'à la croix, Jésus est élevé, glorifié par Dieu. C'est en quelque sorte la réponse de Dieu à son obéissance totale et parfaite. Dieu lui redonne la place la plus haute qui soit, la gloire à laquelle il avait renoncé volontairement. Voilà qui est Christ. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Et c'est en ayant cette trajectoire en tête que Paul encourage les Philippiens à vivre dans ce monde en étant unis dans le combat pour l'Évangile. Paul rappelle aux chrétiens de Philippe qu'ils sont engagés dans un combat, une lutte pour l'Évangile. Encore aujourd'hui, nous vivons dans une société, dans un monde qui s'oppose, qui remet constamment en question le message de l'Évangile et la foi chrétienne. Certains aspects de cette bonne nouvelle sont encore dérangeants et choquants pour nos contemporains, qui entendent qu'ils sont séparés de Dieu à cause de leurs péchés, qu'ils ont besoin de repentance, qu'il y aura un jour un jugement, que Jésus est le seul qui puisse nous sauver, qu'ils n'ont rien à faire si ce n'est de recevoir ce salut par la foi. Pourtant, nous n'avons pas le droit de diluer ce message, de l'atténuer pour le rendre plus acceptable. Comme les Philippiens, nous sommes plutôt encouragés à tenir bon, chapitre 1, verset 27, à tenir ferme dans ce message que nous proclamons. Et Paul dit que c'est ensemble, c'est en étant unis les uns aux autres que nous pourrons persévérer. C'est un combat à mener ensemble. C'est une lutte collective. Il n'y a pas longtemps, c'était l'épreuve du cross à l'école de Manoé. Alors s'il y a bien une chose que je détestais, que je supportais pas quand j'étais petit, c'était le cross. Le cross du collège. Quelle angoisse. Tu cours seul pendant plusieurs kilomètres. Tu as des points de côté. T'as tout le monde qui te double. Ça, c'était mon cas. Peut-être que vous étiez en tête et vous dépassiez tout le monde. Tu donnes le meilleur de toi-même, mais tu peux tellement vite, et c'était mon cas, tellement vite te décourager. Et quelque temps après, j'ai découvert la course de relais, une course qui se fait en équipe. Dans cette course, chacun donne le meilleur de soi. Chacun court en pensant aux autres. Et celui qui court reçoit le soutien de tous ses coéquipiers jusqu'à ce qu'ils reçoivent à leur tour le relais. Nous avons besoin les uns des autres. Lorsque nous sommes ensemble, nous nous encourageons mutuellement. Nous sommes fortifiés. Je suis pas mal interpellé ces derniers temps sur la dimension communautaire du témoignage. Nous mettons parfois trop l'accent sur le témoignage individuel, alors qu'il ne faut certes pas négliger, mais il y a un vrai témoignage, une vraie force dans ce témoignage que nous pouvons avoir par tout ce que nous vivons collectivement. Alors j'aimerais nous laisser à ce propos cette question. Comment est-ce que nous pourrions vivre de manière encore plus collective ? Que pourrions-nous mettre en œuvre concrètement pour cela ? Combattre pour l'Évangile et vivre en tant que chrétien est aussi inévitablement lié au fait de souffrir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas persécutés physiquement. Comme l'étaient les Philippiens, ou comme le sont d'autres frères et sœurs dans certains pays. Mais parfois, et je parle pour moi le premier, ma réticence, mon hésitation à parler de Jésus indique qu'il y a de l'opposition, même dans notre contexte. Là encore, Paul donne un encouragement. Le fait de tenir bon est pour nous le signe que nous sommes sauvés. Souffrir pour Christ est même une grâce, dit-il. En quelque sorte, un privilège accordé par Dieu, un privilège qui accompagne cet autre privilège de croire en lui, verset 29. Ces souffrances que nous expérimentons sont bien réelles. Elles sont parfois liées à l'humiliation, à la moquerie, à l'indifférence, peut-être quand on parle de Dieu aux autres. Mais ce qui peut nous encourager à tenir bon, c'est de regarder à Christ qui a emprunté un chemin de souffrance incomparable au nôtre et qui a tenu bon jusqu'au bout. Voici ce que Paul affirme ailleurs dans Romains chapitre 8, les versets 17 et 18. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Et Paul parle de cela. Et quand on connaît là un peu la vie de Paul, combien il a été moqué, humilié, persécuté physiquement, lapidé, Paul dit qu'il n'y a aucune mesure à ses souffrances comparées à cette gloire qui est à venir. Après la croix, Christ a été glorifié. Et de même, c'est ce qui nous attend. C'est notre espérance, et on en a parlé ce matin. Nos souffrances et nos difficultés, quelles qu'elles soient, prendront fin et nous serons un jour dans la gloire de Dieu, une gloire incomparable aux souffrances que nous pouvons expérimenter sur cette terre. De nouveau, une question pour nous. Considérons-nous le fait de souffrir pour Jésus comme un privilège ? Vivre en tant que citoyen du royaume de Dieu, c'est vivre unis pour l'Évangile alors que nous sommes dans le monde. Maintenant, Paul nous exhorte, nous encourage à vivre d'une manière digne de l'Évangile en étant unis dans nos relations mutuelles dans l'Église. Dans toutes ses lettres, Paul parle de l'unité. Jésus lui-même a prié pour l'unité de ses disciples dans Jean chapitre 17. Pourquoi ? Parce qu'être unis dans nos relations est le moyen par excellence de révéler Jésus-Christ aux personnes qui nous entourent. Et le diable sait très bien que détruire l'unité des croyants, c'est détruire le témoignage de Christ et de son évangile. Paul écrit cela parce que on n'est pas encore arrivé là, mais dans l'église de Philippe, il y avait des tensions entre deux femmes, Évodie et Saint-Tiche. Et en cela, Paul savait que l'unité de l'église était menacée, et par là même, le témoignage de l'évangile à Philippe. Il leur donne donc des clés, trois clés pour favoriser l'unité, pour vivre en accord les uns avec les autres. La première se trouve au verset 2 du chapitre 2. Ayez le même amour, une même pensée, un même objectif ou un même but. Je répète, ayez le même amour, une même pensée, un même but ou un même objectif. Est-ce que vous avez déjà vu des reportages sur l'alpinisme où quelques personnes s'équipent et se mettent en cordée pour atteindre le sommet d'une montagne? Peut-être que vous le pratiquez même. On voit ces personnes avancer ensemble dans une même direction, reliées les uns aux autres par cette corde, solidaires. Ils ont tous un seul et même objectif, atteindre le sommet. Ce que Paul veut, c'est que les chrétiens aient une même pensée et que cette pensée soit marquée par la croix. Qu'ils avancent ensemble vers le même sommet, le même objectif, celui où Christ et son œuvre à la croix est le centre. C'est le cœur de la vie chrétienne. C'est le cœur de ce qui a fait de nous des membres du royaume de Dieu. Et c'est le cœur du message de l'Évangile que nous voulons proclamer. Bien souvent dans l'Église, l'unité est menacée quand on commence à vouloir accorder plus d'importance à des sujets théologiques ou non théologiques qui sont tellement secondaires. Puis Paul mentionne deux autres clés essentielles au maintien de l'unité dans l'Église. L'humilité, qui est le contraire de l'orgueil, et l'altruisme, le contraire de l'égoïsme. Nous sommes par nature très individualistes, centrés sur nous-mêmes, en quête perpétuelle d'avancement personnel. Nous cherchons à nous élever, à nous mettre en avant. Nous voulons à tout prix défendre nos intérêts personnels. Est-ce que l'orgueil et l'égoïsme ne seraient pas la source de nombreux conflits dans les couples, dans les familles, dans l'église, dans les voisinages, dans les entreprises, dans les relations en général? Si on reprend l'image de la cordée, chaque personne de l'équipe est importante. Chacun doit considérer les intérêts des autres. Que se passerait-il, on peut se poser la question, si l'un des membres s'arrête toutes les 10 minutes pour manger et admirer le paysage, parce qu'il en a envie, parce que c'est chouette, parce que ça lui fait du bien? Que se passerait-il si celui qui est derrière décide d'un coup de doubler tout le monde, ou alors d'un coup de partir à droite ou à gauche? Cela créerait inévitablement, au bout d'un moment, des tensions. Et cela finirait par mettre à mal l'unité du groupe, l'unité de l'équipe. L'humilité, c'est considérer les autres comme plus importants que soi-même. L'altruisme, ce n'est pas renoncer à nos propres intérêts, mais c'est placer les intérêts des autres au centre de mes propres intérêts. Alors de nouveau, quelques questions pratiques qui nous amènent à réfléchir personnellement, individuellement, en tant qu'Église. Que vais-je faire? Que sommes-nous prêts à faire concrètement pour contribuer à l'unité, pour renforcer l'unité de notre église locale. Que suis-je prêt à faire concrètement, moi, pour travailler à l'unité de mon couple ? Que suis-je prêt à faire concrètement pour travailler à l'unité de ma famille ? À l'unité de mon groupe d'amis ? À l'unité de mon quartier ? Que suis-je prêt à faire concrètement pour faire sentir aux autres qu'ils sont importants ? Que suis-je prêt à faire concrètement pour placer les intérêts des autres au cœur de mes propres intérêts ? Peut-être que quand vous réfléchissez à cela, il y a des choses qui vous viennent en tête et vous vous dites « oui, mais... » Oui, mais ça va nous coûter. Oui, mais ça va nous coûter parce que cette manière de vivre va à l'encontre des mauvais désirs de nos cœurs et du monde dans lequel nous vivons. Mais à nouveau, nous sommes encouragés à puiser notre motivation en regardant à Christ. L'exemple par excellence d'humilité et d'altruisme. Jésus a renoncé à sa gloire pour nous. Jésus a fait passer nos intérêts au milieu des siens. Jésus est venu nous servir. Et quand je mesure le fait que Christ ait fait ça pour moi, pour nous, quand je saisis qu'un jour, Dieu m'élèvera dans sa gloire, alors je réalise que je n'ai plus besoin de chercher à m'élever. Mais en comptant sur Christ et sur son esprit dans ma vie, je peux alors élever les autres, je peux alors considérer l'intérêt des autres. Et je termine, et je vous laisse avec ce verset, Matthieu chapitre 23, versets 11 à 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous laisses un modèle de ce que tu as fait pour nous sauver, tout ce à quoi tu as été prêt à renoncer pour venir sur cette terre parfaitement Dieu, parfaitement homme et vivre cette vie parfaite d'obéissance pour ensuite mourir sur cette croix, souffrir, prendre sur toi nos fautes, nos échecs. Et tu as été glorifié, tu as été élevé. Et Seigneur, tu nous laisses au travers de cette trajectoire que l'on peut contempler, que l'on vient de faire ce matin, non seulement un exemple, un modèle, mais aussi une source de motivation, Seigneur, pour nos vies. Parce que nous sommes tes enfants, parce que nous t'appartenons déjà, parce que tu nous as sauvés, parce qu'on n'a plus rien à craindre, Seigneur, pour notre salut. Alors nous sommes libres et nous n'avons pas besoin de courir après cette quête d'élévation sur cette terre. On n'a pas besoin de chercher à se mettre en avant, à s'élever, à se mettre sur le devant de la scène. Au contraire, Seigneur, on est encouragé à regarder les autres comme plus grands que nous-mêmes, à les encourager, à leur faire sentir combien ils sont importants. On peut aussi trouver notre motivation, notre carburant, Seigneur, dans le fait de faire passer les intérêts des autres au milieu des nôtres, Seigneur. Combien on a cette tendance à vivre nos propres vies, à être happé par cette vie, ce train-train quotidien, Seigneur, et on peut vite être absorbé par nous-mêmes et notre petit environnement. Et Seigneur, donne-nous à chacun de considérer les intérêts des autres. On a tous à progresser dans cela. Et Seigneur, c'est avec toi, c'est par ton aide, Seigneur, qu'on veut faire cela. Et malgré ce que cela peut coûter, Seigneur, eh bien, on veut regarder encore avec espérance vers cette gloire, cette élévation qui nous attend, Seigneur. Soit quand tu reviendras, Seigneur, et déjà peut-être quand on sera sur cette terre, si tu reviens avant, Seigneur, soit après notre mort, notre départ de cette terre, et quand tu reviendras et que tu nous ressusciteras, Seigneur. Alors que cela nous donne du courage en tant qu'Église, Seigneur, à puiser encore en toi notre centre, cette source de vie, de vie chrétienne, Seigneur, de vie sur cette terre, de vie aussi à créer partout là où tu nous as placés, Père. Amen.